sociale mondiale qui vient de se tenir à Tunis, en Tunisie. Une passionnante boîte à outils. Et pourquoi la presse en parle-t-elle si peu ?
3D. Le journal de Stéphane Paoli. France Inter.
Oui, c'est vrai, pas beaucoup de compte rendu sur ce forum qui vient de se tenir à Tunis. Alors, on va en parler longuement avec vous d'abord. Célina Whittaker, bonjour et bienvenue. Merci bonjour. D'être là. Vous êtes cofondatrice avec le philosophe Patrick Vivet d'un collectif qui s'appelle Richesse, avec un S à Richesse. Et vous êtes coprésidente du réseau FAIR, Forum pour d'autres indicateurs de richesse. Vous êtes membre du mouvement SOL. C'est une monnaie un peu différente. Hein.
C'est un mouvement qui essaye de mettre en place des monnaies.
Des monnaies locales.
Ouais.
Voilà, dont on parle très peu aussi d'ailleurs. On n'est pas très nombreux à savoir qu'il existe des monnaies locales finalement dans notre pays aujourd'hui.
On commence à en parler de plus en plus quand même dans les journaux en France parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place. Et l'idée, c'est justement d'avoir un autre regard sur l'économie et de privilégier l'économie locale, mais plus largement, en fait, l'économie des biens et des services au service de la population.
Alors, il y a déjà une quarantaine de monnaies locales en France. Et finalement, on en parle assez peu. À vos côtés, Alexandre Jost. Bonjour, Alexandre Jost.
Bonjour.
Merci de votre présence. Vous êtes président fondateur de la fabrique Spinoza, ce cher Spinoza, ce philosophe du bien-être d'un certain point de vue. Et c'est d'ailleurs ce que vous défendez. Votre think tank, c'est un laboratoire de réflexion, c'est ça un peu le mot français pour qualifier think tank.
Effectivement, dont l'objet est de replacer le bien-être citoyen au cœur de nos politiques.
Alors, et vous êtes aussi le correspondant officiel en France d'un projet qui est hébergé par l'OCDE sur la mesure du bien-être sociétal. Ça s'appelle Wikiprogress. Vous êtes aussi rédacteur-coordinateur de la commission de l'ONU de mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée générale du 19 juillet 2011 qui vise à faire du bien-être citoyen un objectif de développement. Et enfin, vous êtes membre de la commission présidentielle dite Attali 2 pour l'économie positive. Là, vous arrivez avec un certain nombre d'éléments importants à nous faire connaître. Et puis enfin, Cyril Dion. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Merci de votre présence ici. Vous êtes le directeur de Colibri. Alors Colibri, c'est un projet formidable parce que c'est une réflexion sur une transition écologique et humaine de notre société. Hein.
Oui, exactement. C'est faire pousser un nouveau projet de société qui soit totalement transversal, c'est-à-dire qui intègre à la fois toutes les données économiques, écologiques, sociales et qui nous permette de penser à la société qu'on voudrait habiter demain.
Et vous nous raconterez tout à l'heure la très jolie légende, et en plus elle est courte, de Colibri, qui est beaucoup mieux que le mythe de Sisyphe, hein, mais qui n'en est pas si loin que ça, finalement.
C'est ça.
En préambule à ce forum social de Tunis, on va écouter un peu la rumeur de la semaine écoulée, et bien sûr, ça c'est Caroline Cartier.
Nous allons faire un choc de simplification.
Non, c'est simplement inimaginable. C'est tellement inimaginable que cet homme-là puisse abuser de la faiblesse d'une dame qui a l'âge de sa mère. Je sais pas comment vous dire. C'est impensable. Je veux plus en parler.
Et j'aime ce joli dicton wallon. Faites comme à Liège, laissez pleuvoir.
Le week-end de Pâques connaît traditionnellement une météo incertaine. Entre t-shirt et blouson d'hiver, pas facile de faire sa valise.
Des chants religieux, des applaudissements et de l'eau bénite. C'est Vendredi Saint aujourd'hui en Afrique du Sud, un jour férié. Au deuxième jour d'hospitalisation de Nelson Mandela, les habitants unissent leurs prières.
Ne soyez jamais des hommes, des femmes tristes. Ne vous laissez jamais prendre par le découragement.
À genoux, le pape François lave les pieds à un dont ceux d'une jeune fille et elle est musulmane.
Redorer son image.
La France compte aujourd'hui 3 187 000 chômeurs.
Mon premier objectif, c'est d'inverser la courbe du chômage à la fin de l'année.
François Hollande ne parvient plus à redorer son image.
Si le président ne suspend pas le texte, il prend le risque de troubles graves, a dit Brigitte Bardot. Quant à Christine Boutin, elle a prévenu, attention, ça va péter.
Des affrontements parfois violents. Des insultes et une réponse sans détour des forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Parmi eux, des élus comme Christine Boutin qui, hier après-midi, a fait un malaise, place de l'Étoile.
La panique redoutée n'a pas eu lieu, l'inquiétude, elle, est profonde. Toute la journée, une foule compacte et calme s'est massée au pied des banques.
Chypre a évité la banqueroute grâce à un plan de sauvetage conclu in extremis la nuit dernière à Bruxelles.
Non, c'est simplement inimaginable, c'est tellement inimaginable.
Monsieur Gentil, du syndicat de la magistrature, avait été destinataire d'une lettre de menace de mort, très claire. Cette lettre était accompagnée de cartouches à blanc.
J'étais fort étonné de la part de Monsieur Guénaud qu'il se permette d'attaquer avec autant de violence un magistrat qui, en toute indépendance, avait pris ses décisions.
Non, c'est simplement inimaginable. C'est tellement inimaginable.
Un choc.
Je ne peux plus en parler.
Oui, évidemment. Choc de simplification, on verra ce que ça peut donner. C'est une formule politique, en tout cas. Avec tous les inconvénients qu'ont quelquefois les formules politiques. Alors, sur ce forum social mondial, c'est Néla Whittaker. Une première question quand même, parce qu'elle s'impose. 130 pays étaient présents à Tunis. À peu près 50 000 participants, ça fait beaucoup de monde. Énormément de jeunes, d'ailleurs, et de jeunes Tunisiens qui étaient partie prenante à cette grande réflexion. Très peu de compte rendu, en tout cas dans les pays occidentaux, et en tout cas chez nous en France. Serions-nous, quoi, résignés ?
C'est la grande question. Je pense que c'est une grande question par rapport à nos sociétés. Parce qu'effectivement, le forum social, c'est un moment en fait de brassage d'idées, de brassage d'initiatives, de brassage de propositions, où on peut aller recueillir énormément de choses et qui montrent des voies. Après, il faut les mettre en pratique, etc. Mais qui montrent énormément de voies, qui permettent de faire des liens, de faire des alliances pour avancer un peu plus loin. Alors pourquoi n'en parle-t-on pas ? Pour moi, ça reste.
Enfin,
ça reste
pourquoi n'en parle-t-on pas chez nous ? Parce que peut-être qu'on en parle beaucoup ailleurs.
Moi, j'étais au Forum social, donc je reviens de Tunisie, je suis arrivée hier soir. C'est sûr que dans le pays, en Tunisie, il y avait des articles dans les journaux, il y avait un réel suivi de ce qui se passait. Et dans d'autres pays, probablement, on en parle. Alors pourquoi n'en parle-t-on pas ici ? Il y a une grande critique qui est faite au Forum social, que je ne partage pas, mais qui peut peut-être expliquer une partie des choses. On dit souvent que le Forum social ne donne pas de propositions, n'arrive pas à des conclusions, n'arrive pas à dire, voilà, il faudrait aller faire ceci ou faire cela. Et les médias sont friands de propositions, probablement déjà un peu construites, et de voix à donner. Alors que le Forum social, il se situe exactement de l'autre côté.
Ah, c'est sûr qu'il ne propose pas le choc de simplification, le Forum.
C'est sûr. Et le Forum social, c'est un lieu pour que les gens se rencontrent, construisent ensemble et ensuite repartent et continuent à agir. Il n'y a pas de déclaration finale au Forum social, il n'y a pas de voix qui est donnée. C'est simplement pour redonner en fait du contenu, de la force et des liens pour que tout le monde continue à agir. Et c'est un peu difficile peut-être. Mais à mettre en scène d'un point de vue médiatique, j'en sais rien. Mais le fait est que c'est la réalité en fait de ce que nous avons besoin aujourd'hui. C'est cette horizontalité, c'est cette prise de conscience et c'est la participation de chacun dans ce changement. Mais du coup, cette participation, elle est diverse, elle est large. Et l'idée du Forum social, c'est de dire, en fait, il faut que chacun se mobilise. Et il n'y a pas un mot d'ordre. Il y a des mots d'ordre, il y a les mots d'ordre que chacun, chaque organisation a envie de porter dans une même perspective qui est celle d'un changement de monde, d'un changement de système de valeurs pour construire un monde qui soit vivable pour chacun et pour tous.
Et pour aller peut-être au bout de cette idée, moi je me souviens de l'extraordinaire retentissement qu'ont eu les premiers forums, enfin évidemment à Porto Alegre et ce qui s'en est suivi, sauf que c'est vrai que derrière, jamais, nulle part, on a vu les dirigeants politiques, où qu'ils se situent, où qu'ils se trouvent, prendre en compte ce qui pouvait être porté par ces forums. Et peut-être que justement, si une lassitude ou une résignation intervient aujourd'hui, c'est peut-être par le manque de transmission ou de continuité entre les forums et la décision politique.
Vous posez la question en fait de comment se construit, enfin pour moi, la question qu'il y a derrière ce que vous dites, c'est comment se construit la décision politique. Le forum social, il s'est d'emblée positionné comme un mouvement de la société civile, pour mobiliser la société civile. Derrière ça, je pense qu'il y a l'idée de dire, en fait, c'est en nous mobilisant, nous, que nous pourrons arriver à faire bouger les politiques. Il n'y a pas de représentants de partis politiques en tant que tels au Forum social. Tous les élus peuvent y aller, mais en tant que citoyens. Et c'est vraiment un mouvement qui veut et qui donne la place aux citoyens pour qu'ils s'organisent et pour qu'ils changent. Mais du coup, vous voyez que tout ça, c'est c'est une autre façon de voir, ça change par rapport au système plus traditionnel.
Bien
où
sûr.
On va aller faire des propositions aux politiques, où on va attendre que les politiques prennent ce qu'on dise pour aller le mettre en place. Alors que là, on est dans l'idée de, on va se mobiliser, on va montrer ce qu'on veut faire, et c'est à partir de ce qu'on fait déjà qu'on va construire une alliance, probablement avec les politiques, pour ces changements. Mais
ça
voilà,
pose,
on est dans
ça,
un autre registre.
Sûr. Mais ça pose quand même la question de savoir s'il y a dans la sphère politique quelque chose qui relèverait ou, soit de l'autisme, soit de la schizophrénie. Jamais, jamais, les responsables politiques, ici et ailleurs, n'ont autant parlé de l'importance des citoyens. Jamais. Dans toutes les interventions politiques, les citoyens, il faut faire avec eux, il faut penser avec eux, il faut décider avec eux. Jamais on ne l'a autant dit. Et en réalité, jamais on a aussi peu tenu compte de ce que les citoyens proposent. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas de continuité, encore une fois, entre les forums et la décision politique. Alors, prenons des cas très concrets. Ce que vous faites, vous, dans le mouvement que vous dirigez, vous vous interrogez sur les différentes façons de qualifier la richesse. Sujet passionnant aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il n'a pas plus de visibilité ?
La question qu'on se pose, nous, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui est important pour nous, pour une vie bonne pour chacun et pour tous. Et le problème, ou en tout cas la situation réelle, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est organisé autour de la suprématie de l'économique, mais je dirais que ce n'est même pas de l'économique, c'est la suprématie de l'argent. Et de la sphère financière, au-delà même de l'économique. Ce monde-là, il s'est construit, je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui, et je pense que aussi bien les politiques que nous, citoyens, nous sommes en fait quelque part enfermés dans cette gangue-là. Hein. C'est rentrer aussi dans nos propres têtes, à nous, citoyens, et aux politiques en tant que personnes aussi. C'est-à-dire on n'arrive plus à penser le monde qu'au travers de ce prisme-là. La richesse matérielle à tout prix, le bonheur, ce qu'on nous répète partout, on a vu la pub juste avant l'émission, changer d'heure, changer de montre.
C'est effrayant, ça.
Donc, voilà, c'est la richesse matérielle, c'est l'accumulation de biens qui ferait le bonheur, point d'interrogation. Donc, la grande question, c'est vraiment d'aller se réinterroger sur ce qui compte pour nous, sur ce qu'il est important de prendre en compte pour organiser la vie en société et, du coup, effectivement, les politiques publiques. Alors, pour moi, c'est un réel changement de cadre de pensée. Et on est dans un moment clé là-dedans, avec une grande difficulté, effectivement, de faire ce pas-là.
Mais vous partagez un point de vue avec le philosophe Patrick Vivray, qui consiste à dire, au fond, il faut qu'on revienne au sens premier du mot « bénéfice ». C'est-à-dire, au fond, ce qui relève d'engagements positifs et d'engagements qui sont nuisibles. Et il y a un exemple qui est donné que je trouve très, très parlant, quoi. C'est l'économie du crime confrontée au bénévolat, par exemple.
Tout à fait.
Là, on est pile dedans, quoi.
Tout à fait, ouais. Oui. Quand on voit, c'est très intéressant, quand on voit les grands penseurs économiques du 19e siècle, quand on pense à Malthus, mais là, surtout, je pense à Walras, ils disaient, en fait, une molécule chimique, elle peut être utilisée comme un médicament, elle peut être utilisée comme un poison. Mais en fait, elle a plus de valeur pour celui qui l'utilise comme le poison, parce que il va chercher cela. Mmh. Et donc, on est vraiment dans un dans un décalage entre ce système économique où ce qu'on recherche c'est la richesse matérielle et le fait de se demander effectivement qu'est-ce que c'est le bien faire, le bénéfice, ce qui apporte du bien.
Mais on a déjà vu, il y a eu plein de réflexions ou de propositions ou d'interrogations sur les façons d'aborder la question de la richesse. Des richesses, d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on parle de la richesse culturelle, de la richesse spirituelle, de la richesse patrimoniale.
L'ensemble des richesses, de ce qui compte pour
la
vie bonne.
La richesse humaine, évidemment. Il y a un vrai travail de fond qui est fait aujourd'hui pour essayer de hiérarchiser, mais de les mettre en perspective, ces richesses-là.
Bien sûr. Alors, je vais vous parler un petit peu maintenant de ces questions des indicateurs de richesse, simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui nous permet de bien voir, en fait, comment comment tout ça peut peut-être être travaillé. Alors c'est juste une partie, il faudrait aborder beaucoup d'autres choses, mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qu'on montre à la télé, à la radio, et du coup, ce qui est effectivement ce qui dirige nos sociétés, la société s'organise autour d'un indicateur clé, qui est le produit intérieur brut, qui montre en fait, qui ne mesure que la production économique des entreprises, et plus loin, en fait, la valeur ajoutée, c'est-à-dire en fait de tous les biens et services qui passent par de l'argent, par la monnaie, qui donnent lieu à des transactions monétaires. Du coup, la grande question est si on s'arrête à organiser notre vie et à organiser notre système en fait, de décision politique autour de ces indicateurs-là, c'est sûr qu'on va toujours privilégier les activités qui rapportent de l'argent.
Et le
plus vite possible. Donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut mettre en place d'autres indicateurs qui essayent de mettre en avant d'autres richesses qui sont nécessaires pour le bien-être et pour le bien-vivre. Alors, il y a beaucoup de travaux. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans ce sens-là. Depuis les années 80 aux États-Unis. En France, il y a par exemple l'indicateur de santé sociale qui a été mis en place en particulier par Florence Janicatrice, Jean Gadret, donc des chercheurs de l'Université de Lille, qui essayent en fait de mettre en avant d'autres indicateurs de l'état de santé de notre société, que ce soit le logement, que ce soit le revenu, que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, que ce soit les liens sociaux, etc. Donc maintenant, on commence à en parler un petit peu plus. Il y a un certain nombre de conseils régionaux pour rester dans la situation en France. Il y a un certain nombre de conseils régionaux qui s'emparent de ces questions-là. L'Association des régions de France a produit un document l'année dernière en faisant des propositions en fait, d'autres indicateurs de richesse pour évaluer et décider des politiques régionales sur la base d'autres données que les seules données économiques. Mais la question qui est aussi derrière, c'est comment est-ce qu'on va décider des critères qu'on va prendre pour des richesses qu'on va prendre en compte. On revient à la même question. Qu'est-ce qui compte pour nous ? Et en fait, là, on est vraiment dans une situation où la participation est absolument nécessaire, parce qu'il s'agit de reconstruire en tant que société ce qui compte le plus pour nous en tant que société, comment nous voulons vivre ensemble, quels sont les éléments qu'on veut mettre en avant.
Alors, même si ça change lentement et à peine, de façon imperceptible, ça commence.
Ça change, ça commence.
Aux États-Unis, il y a une commission qui travaille sur le BNB, Bonheur National Brut. Et je ne parle même pas du Bhoutan qui en a fait un objectif politique prioritaire, le bonheur national. Et alors, on va sourire en disant le Bhoutan, on aurait tort. On aurait tort de sourire. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui au Bhoutan pour se dire qu'il y a un extraordinaire laboratoire politique qui est en cours là-bas. Donc, ça commence un peu
à
changer.
Ça commence à changer. Quand je vous parlais des conseils régionaux du Nord-Pas-de-Calais, des pays de la Loire, il y a beaucoup de conseils généraux aussi, par exemple comme la Gironde, il y a le document de l'ARF. Donc, ça commence à changer. On commence à se poser ces questions-là. Je pense que la crise, malheureusement, amène à ça, parce que tout le monde se rend compte que c'est plus possible de rester seulement sur le PIB. Mais j'insiste sur la partie citoyenne, sur la partie de la participation et de cette redéfinition des valeurs en fait, autour desquelles on veut faire société. Je vais vous donner un exemple qui, de mon point de vue, est assez terrible. Le PNUE, le Programme National des Nations Unies pour l'Environnement, vient d'éditer un nouvel indicateur qui s'appelle l'IWI, qui s'appelle Inclusive Wealth Index, donc l'indicateur de santé inclusive, et donc qui se base sur trois piliers, donc le capital économique, le capital humain, le capital environnemental. On pourrait se dire, c'est pas mal, tiens, on avance. Mais quand on regarde un petit peu plus loin, on voit par exemple sur le capital environnemental, ils disent, il y a des stocks de capital naturel qui sont si importants pour le bien-être humain, qui défient la mesure et sa substitution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les substituer. Ouais. Ils sont critiques car on a obligation de les conserver. Il s'agit de la régulation du climat, de la biodiversité, de l'eau potable, etc. Mais ils défient la mesure, donc ils n'ont pas été pris en compte dans l'IWI.
Pratique, c'est
quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Donc c'est pour ça que j'incite sur la question de la participation citoyenne, pour qu'on puisse vraiment dire ce qui compte pour nous et qu'on trouve des indicateurs qui ne seront peut-être pas tous quantitatifs, qui seront peut-être qualitatifs. Alors, le collectif pour un Québec sans pauvreté, au Québec, qui a fait donc beaucoup de travaux sur des indicateurs et qui a beaucoup travaillé avec la population là-dessus, il dit, en fait, à un certain moment, il faudrait qu'on ait simplement des boussoles. Ça indique vers où on va. Qu'indique l'indicateur ? Mais ce sont quelquefois des indicateurs qualitatifs, des indicateurs de seuil. C'est-à-dire, il y a des choses qui, effectivement, Elles sont tellement critiques qu'il est indispensable de les préserver au-delà de toute autre considération.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les citoyens, quand on leur fait des propositions claires, ils adhèrent très volontiers. Ces monnaies locales dont on parlait en commençant, là, les 40 monnaies locales, dès qu'elles commencent à exister, les comportements changent et un type d'économie différent commence à se tramer, à se tisser.
Oui, les monnaies locales, c'est quelque part la force politique.
Qu'est-ce que c'est d'abord, en deux mots, une monnaie locale ? Qu'est-ce que ça veut dire, une monnaie locale ?
Une monnaie locale, en fait, ce sont des monnaies qui se mettent en place sur des territoires dans l'objectif de développer...
Il y en a une à Toulouse, par exemple,
qui fonctionne pas mal. Qui fonctionne pas mal, oui. Et donc, dans l'objectif de développer l'économie locale, mais pas n'importe quelle économie locale, c'est l'économie locale de biens et de services qui répondent à des besoins des êtres humains et qui sont faits de façon à respecter l'environnement et à préserver notre planète. Parce que, petite parenthèse, le PIB regarde l'activité économique, mais il ne regarde pas la nature de la production ni la forme de la production. Donc, les monnaies locales, elles essayent de redonner du sens et de reconstruire une économie qui soit locale et qui soit porteuse de sens par rapport aux êtres humains et à l'environnement. Et effectivement, en fait, l'idée est toute simple. C'est un dispositif pour permettre à tout un chacun de privilégier, en fait, dans son acte d'achat, certaines activités économiques, certaines entreprises qui, elles, travaillent dans ce sens-là. On ne se rend pas compte, hein, on est bombardé de publicité, on est bombardé, par exemple, de cartes de fidélité, et je donne toujours cet exemple. On ne se rend pas compte qu'en prenant une carte de fidélité, parce qu'il nous donne l'espoir d'un petit pouvoir d'achat supplémentaire, qui est souvent vraiment extrêmement minime, en fait, on est en train de donner la préférence à cette entreprise-là. Et donc, on a un pouvoir par notre acte de consommateur. Et ce que veulent faire les monnaies locales, c'est ça. C'est reprendre le pouvoir de consommateur et de privilégier l'économie locale.
Alors, vous nous avez ouvert une porte, là. Vous avez parlé du besoin de sens. On va explorer ça dans un instant avec... Alexandre Jost et sa fabrique Spinoza. Mais d'abord, peut-être, Jean-Pierrot, une première pièce montée. Tu t'es interrogé sur la question de l'humain, au fond, qui est la plus intéressante de toutes. Hein.
Bien entendu, je me suis intéressé à une économie économique à travers la productivité poétique.
J'ai rien compris à ce que tu dis là, tu vois.
L'économie économique, enfin, voyons, à travers une productivité poétique et les ressources humaines inexploitées.
Quelles sont les ressources humaines en général oubliées dans l'entreprise ?
Les ressources humaines, c'est déjà un concept assez amusant dans l'entreprise. C'est la poésie, par exemple, la façon poétique de voir les choses ou la façon artistique de voir les choses.
Et dans l'entreprise, ça manque ?
La poésie, ça se voit rarement dans l'objet ou dans la chose qu'on produit.
Les qualités professionnelles et humaines que chaque personne a, ça s'est complètement oublié.
Si on classait les entreprises par le taux de plaisir à y travailler ?
Je dirais les entreprises dans lesquelles il n'est pas trop désagréable de travailler, dans lesquelles on n'est pas trop stressé, plutôt qu'avoir du plaisir, parce que là, je pense que c'est assez rare.
S'il y avait un idéal, ce serait celui d'intéresser les gens à ce qu'ils font, de telle manière qu'ils n'aient pas l'impression de travailler.
Quelle part prend le bien-être dans la productivité ?
La part du bien-être, c'est la part déjà de ce que l'on produit, de son utilité.
Le mal-être est totalement improductif. Toute part de bien-être amène à la productivité.
La sagesse devrait-elle être un indicateur économique ?
Ça ne l'est pas, mais ça devrait.
La sagesse dans les modalités de production et le système économique de production et de consommation, oui.
Quelle est la valeur que vous mettriez en avant pour mesurer l'évolution d'une société ?
Ne pas laisser de bombes à retardement à nos enfants, soit économiques, soit écologiques.
Sa capacité à faire collectif, à vivre ensemble.
Que serait une économie positive ?
Ce serait une économie où il y aurait beaucoup plus de partage, où il y aurait plus de choses qui seraient gérées plus en collectivité.
Une économie positive serait une économie qui œuvrerait dans l'intérêt général.
L'économie positive serait une économie qui permettrait à chacun de faire quelque chose dans la société qui lui apporte un certain enrichissement personnel. Et qui aussi permettent aux gens ensemble de se retrouver bien.
Ce serait possible, mais pas dans la mesure où l'économie est basée sur la consommation.
Pourrait-on adopter un principe de sobriété heureuse ?
En consommant intelligemment et en n'écoutant pas forcément tous les diktats de la pub et des entreprises qui nous poussent à consommer.
Pour ce qui est des pays occidentaux, oui. Mais la sobriété de vivre dans les pays du Sud, eux, ils ont besoin, au contraire, d'acquérir un meilleur niveau de vie.
En ce moment, c'est la sobriété malheureuse. Mais la sobriété heureuse, c'est quelque chose vers lequel on devrait tendre, et c'est possible.
Alors, arrivera-t-on au bien-être citoyen, hein, qui est le projet de la fabrique Spinoza que vous avez créé, Alexandre Jost? On parlait à l'instant avec Selena Whittaker du besoin de sens. Il y a une enquête qui a été menée récemment qui est édifiante. Hein. 76% des Français interrogés sont en demande de sens, là où ils n'étaient que 67% un an auparavant.
Et une enquête sérieuse, en plus, c'est une enquête du médiateur de la République, en Jean-Paul Deloire, en 2010, effectivement.
C'est donc un besoin mais irrépressible de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble, quoi, quel est notre projet collectif.
Écoutez, nous, notre manière de voir les choses, c'est que une finalité ou une poursuite qu'on pourrait avoir collectivement, c'est le bien-être citoyen. Et derrière ce mot bien-être citoyen, on met beaucoup de choses. Alors, on pense d'une part, comme Célina, comme le groupe Manfer, qu'il faut que cette construction de la définition de ce bien-être citoyen, elle vienne justement des citoyens. Mais on pense également que, et ça peut vous faire sourire, qu'il faut se tourner vers une science qu'on appelle aujourd'hui science du bien-être. Et dans cette science-là, réfléchit à qu'est-ce qui constitue une bonne vie. Et dedans, on voit qu'il y a trois composantes, et c'est assez intéressant en termes idéologiques. C'est d'abord la partie plaisir, la partie hédonique. Donc, est-ce que j'ai plutôt des affects positifs? Comme disait le monsieur dans l'enquête précédemment, est-ce que dans mon travail, je suis plutôt stressé? Est-ce que j'ai du plaisir? Donc, ça, c'est physiologique. Une autre partie, c'est est-ce que je suis satisfait de ma vie? C'est le bien-être de satisfaction. Et ça, c'est quelles sont mes attentes, quelles sont les projections que j'ai par rapport à ma vie, en termes familial, en termes de travail, en termes d'argent. Et le troisième côté, c'est le bien-être démonique, comme les Grecs l'appelaient. Et cette fois-ci, c'est quelque chose, une très jolie expression, je trouve, c'est quelque chose de plus grand que nous. Est-ce que je trouve un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que moi? Est-ce que je suis engagé? Est-ce que je trouve du sens? Est-ce que je suis moteur? Et on pense que si on prend en compte ces trois facettes-là, l'hédonique, la satisfaction, qui est cognitive, et le démonisme, alors on a une manière de définir ce qui est une bonne vie. Et cette réflexion-là, si on arrive à l'amener dans le champ politique, dans le champ de l'entreprise et ailleurs, on pense que c'est révolutionnaire. Et peut-être une autre chose à dire, parce que ce cadre conceptuel, il a l'air un peu complexe. Et j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, Céline, tout à l'heure, et ce que vous disiez, Stéphane Poli, c'est... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de réactions derrière le Forum social mondial? Bien, je pense qu'il y a une question de mise en capacité, comme les Américains ou les Anglo-Saxons disent, d'empowerment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a à la fois la capacité au sens de « je me sens capable de », donc quelque chose de l'ordre de la perception, et ensuite, est-ce que je suis équipé pour? Et nous, qui sommes un think tank politique, on se tourne vers des initiatives ou bien des forums ouverts, ou bien vers des institutions plus institutionnelles, voilà une belle expression, telles l'Institut Montaigne. Et on s'aperçoit qu'ils ont tenté une expérimentation où pendant deux week-ends, ou un week-end, je ne sais plus, ils ont rassemblé une cinquantaine de citoyens, et ils ont fait venir le ministre de la Santé, des experts, etc., pour les faire plancher sur des propositions qui seraient ensuite soumises au gouvernement. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que on est à mi-chemin entre un citoyen qui est complètement isolé et à qui on demande finalement de transformer notre société, et de l'autre côté, un politique qui lui décide par lui-même d'une action. Et là, c'est l'entre-deux. Est-ce qu'on peut se mettre en capacité de faire des propositions?
Est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose qui fait que dans un monde qui prétend être maintenant horizontalisé, où en effet le citoyen est appelé de plus en plus à intervenir dans le champ politique, c'est-à-dire le partage collectif, est-ce qu'on ne vous a pas enfermé dans un segment politique qui est celui des altères? Ah, c'est des néo-gauchos, c'est des gens plutôt assez sympathiques, mais laissons les altères avec les altères. Alors qu'en réalité, quand on vous écoute, il y a de la réflexion de fond sur le monde tel qu'il fonctionne, il y a des propositions, alors on n'est pas obligé d'y souscrire, mais il y a en effet un vrai laboratoire politique. Mais non, on vous a mis dans le tiroir des altères.
Alors écoutez, ce sujet-là, pour nous, c'est un sujet de tension, de crispation, d'interrogation, vraiment. Parce que à la fois, on trouve que ce mot alter, il est intéressant parce qu'il invite, on sent bien qu'il y a une invitation à une réflexion pour autre chose. Donc c'est riche, l'innovation, c'est l'autre. Et en même temps, on a l'impression qu'en disant ça, on marque une position, mais qu'on s'exclut. Et on s'exclut ou on invite les autres à nous exclure. Donc, nous, à la Fabrique Spinoza, on est toujours tiraillé à ce sujet. Mmh. Et aujourd'hui, vous voyez, on en faisait des petites plaisanteries avant l'émission, j'ai mis une cravate. Alors, j'ai mis une cravate parce que j'ai envie, même si on
sauf
est à la radio...
Sauf qu'elle est quand même orange fluo, oui, elle est orange fluo. On n'est pas dans le noir classique.
Hein. Effectivement, le public est témoin. Mais on a envie de pouvoir parler à tout le monde. On a envie d'être... Et quand on dit ça, ce n'est pas le sens du consensus mou. On a envie d'être amis avec les colibris, on fait partie du collectif Faire. Et en même temps, on milite, on fait du plaidoyer positif auprès du Sénat et de l'Assemblée pour créer des groupes de réflexion sur des indicateurs. On rencontre des PDG du CAC 40... de telle sorte à transformer leur mentalité. Donc ça, c'est une grande question.
Ils vous écoutent ?
Ils nous écoutent. Il faut... C'est difficile, parce que à la fois, il faut garder sa pureté idéologique, pour prendre le monde de l'entreprise, c'est un très bon exemple. La pureté idéologique, elle consiste à dire, nous, on vise le bien-être citoyen à la Fabrique Spinoza. Donc on pense que l'objectif, un des objectifs fondamentaux de l'entreprise, c'est de permettre à l'individu de s'épanouir. On passe 10 ans, 9 ans de sa vie à travailler. C'est le deuxième poste occupationnel après le sommeil. Le premier étant la télévision. Bon, pour réflexion, quand même, ça invite à réfléchir. Donc, on ne peut pas se dire que c'est juste un endroit dans lequel on est stressé. Okay ? Néanmoins, l'entreprise, comme on se le disait en off avant l'émission, elle a besoin d'être incitée, d'être mise sur un certain chemin. Donc, nous, on se dit, c'est quasiment de l'empathie envers l'entreprise qui peut pas être que... Est-ce que l'entreprise n'a pas besoin qu'on lui donne des arguments pour se préoccuper de l'épanouissement des collaborateurs ? Donc nous, on conduit des études pour démontrer le lien entre bien-être et performance économique. Pas le profit à tout prix. C'est ce qu'on appelle le beyond profit. C'est réaliser du profit en se demandant qu'est-ce qu'on fait de ce profit derrière. Mais on démontre, il y a des études en neurosciences, il y a des études en sociologie des organisations qui montrent que véritablement... Et ça va dans le sens de l'intuition. Si on se sent bien, on est plus productif en entreprise.
Mais je me souviens qu'on avait expliqué à une époque, il y a déjà longtemps d'ailleurs, le succès de la Silicon Valley par un slogan qui était « On produit bien là où on vit bien
bah, ». Écoutez, nous, on pense que... on s'est intitulé la Fabrique Spinoza parce que derrière Spinoza, il y a joie, liberté, démocratie, il y a bien-être, il y a bonheur, parce qu'on pense que c'est un principe qui est vertueux. Là, on est en train de, pour vous donner un exemple, on est en train de lancer des dîners qui s'appellent les Happy Culture, où on invite des chefs d'entreprise, des managers eux, à réfléchir sur le thème du bonheur en entreprise. Parce qu'on pense que ce thème, c'est à la fois une poursuite, un objectif, une finalité, c'est également... un angle d'analyse, un prisme pour voir les choses. Si, et là je pense qu'on a des débats avec FAIR, mais avec le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, mais là où on se retrouve vraiment, c'est que le bien-être, l'environnement, ces sujets-là, sont des outils pour avoir une vision large, holiste. Qu'est-ce qui permet, quel est le bon outil pour s'assurer qu'on a pris en compte l'ensemble des choses qui permettent, qui font que nous faisons une bonne, nous vivons dans une bonne société ensemble.
Mais ce qui est extraordinaire, puisqu'on parle un peu de politique, mais au meilleur sens du mot politique, là, ce que nous avons à partager ensemble, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est question du bonheur. Donc la Révolution française, elle, dès son commencement, elle porte au fond les valeurs que vous défendez aujourd'hui.
Alors sur le côté très institutionnel, on peut dire deux choses. La première, c'est que, encore une fois, j'ai tendance à dire ça fera sourire des gens. Mais je devrais arrêter de dire ça parce que ça ressemble à une excuse.
D'abord, le sourire, c'est plutôt sympathique.
Le sourire, c'est plutôt sympathique. Donc soyons heureux du fait que l'ONU a proclamé la Journée internationale du bonheur derrière nous il y a quelques jours, le 20 mars. Et ça n'est pas quelque chose de rêveur, c'est simplement une invitation pour l'ensemble des États à réfléchir à leur développement comme ayant potentiellement pour finalité l'épanouissement humain. Deuxième chose à dire sur ce sujet-là, c'est que on le voit arriver dans nos politiques publiques, on le voit arriver dans les régions, on le voit arriver dans les départements, on le voit arriver au Sénat. Et une proposition intéressante, ça serait de dire très concret, lorsque on prépare une loi, eh bien, intégrons dans l'étude d'impact législative, intégrons comme critères des critères plus larges. Aujourd'hui, il est simplement indiqué social, économique, environnemental. Est-ce qu'on ne pourrait pas préciser un peu plus ? Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter les critères d'épanouissement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer à cet endroit-là ce qui a semblé important pour les citoyens lorsqu'on les a interrogés selon les manières de Colibri ou de FAIR ou de la Fabrique Spinoza ?
Céline Yawitekar, oui, sur les définitions des richesses, où le bonheur est un élément important pour vous, j'imagine.
Tout à fait. Et bon, je partage beaucoup de ce que nous a dit Alexandre. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, ce sur quoi il faut être attentif, c'est que, de mon point de vue, on ne peut pas seulement parler du bonheur personnel, du bonheur des gens, parce que de fait, le système dans lequel on est inséré ne pousse pas vers là. Donc ça serait une lutte contre une machine qui va dans un autre sens. Mmh. C'est pour ça que les deux choses doivent être reliées, c'est-à-dire il faut chercher, bien sûr, le bonheur de chacun, et ce que je dis toujours, le bonheur de chacun et le bonheur de tous, mais ça interroge les bases même d'organisation de notre société. Et c'est pour ça que cette question, en fait, d'aller reconsidérer la richesse et d'aller se demander autour de quel type de richesse et d'éléments concrets il faut qu'on organise le vivre ensemble. Alors, vous voyez que ça croise complètement avec ce qu'a dit Alexandre. Ma préoccupation, c'est, enfin, mon point de vue, c'est de dire qu'on ne peut pas rester simplement au niveau des individus, mais qu'il faut qu'au-delà des individus, on s'intéresse sur cette organisation sociale. Et du coup, la difficulté aujourd'hui, c'est que la société telle qu'elle est organisée, le système dans lequel on est avec cette suprématie de l'économique, de l'argent, du financier, nous pousse dans une autre direction. Donc, c'est les deux éléments qu'il faut arriver à combiner pour effectuer des changements.
Mais je reviens sur le sourire, et qui n'est pas de complaisance, mais qui devrait être un sourire admiratif. Je parlais du Bhoutan tout à l'heure, du BNB, du Bonheur National Brut, sur lequel aussi travaillent décidément plusieurs commissions aux États-Unis. On devrait s'y intéresser de plus près, nous, en France. On est au 28e rang mondial s'agissant de la question du bonheur, et on est peut-être le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs aujourd'hui. C'est pas une petite question pour un système politique comme le nôtre, hein.
Non, effectivement, nous, notre analyse, bon, petit rebond sur le Bhoutan, effectivement, le Bhoutan, quand on parle de ce pays, les gens se disent, oui, hein, d'abord, ils savent pas où c'est, ensuite, il y a que 700 000 habitants, c'est dans les montagnes, est-ce que ça, il y a un rapport avec ce qu'on fait? Alors, deux réponses à ça. Un, ils ont vraiment construit une architecture de réflexion intéressante. Ils ont quatre grands piliers, des domaines qui établissent le bonheur national brut, et ensuite, ils ont 72 indicateurs pour mesurer. Donc, c'est fait de manière assez professionnelle. Deuxièmement, il faut l'adapter à notre système, à nous. Donc, c'est effectivement une source d'inspiration. Peut-être la dernière chose à dire sur ce sujet, c'est que on a besoin de faire comprendre à nos dirigeants politiques que c'est un sujet qui n'est pas incompatible avec notre période actuelle. Vous savez, il y avait un discours de Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, qui disait, le discours s'appelait « The Happiness Budget ». C'est quand même assez gonflé quand même comme titre. Et « The Happiness Budget », il nous disait « On n'est pas obligé de choisir entre la prospérité et le bien-être. Il y a un alignement possible. » Et donc, nous, le discours qu'on tient auprès de nos hommes politiques, c'est « Faites attention à ne pas être pris pour des démagogues. » Effectivement, en revanche, en période où on n'arrive pas à générer la croissance économique, on n'y arrive plus, on est au bout d'un chemin, eh bien, il faut qu'on trouve d'autres leviers pour favoriser l'épanouissement collectif, avec derrière des vertus en termes de croissance.
Tout de même, un défi très très intéressant, et voyons un peu ta deuxième pièce montée, Jean-Pierrot, parce qu'il faut trouver la meilleure jonction possible entre, disons, la sphère sociale, pour faire court, et l'économie, et faire en sorte que le bonheur y trouve sa part.
Bien entendu. Mais un tout petit instant, je voudrais revenir sur le Bhoutan, et vous parliez de l'architecture et du Bhoutan. Il ne faut surtout pas oublier quand même que le Bhoutan est le créateur de l'arc Bhoutan. Pardon. Excusez-moi.
J'aurais jamais dû parler du Bhoutan, là.
Parlons d'autre chose. En fait, c'est Alibaba ou Alioho, dans quelle caverne rangera-t-on l'homo consumerus?
Quelle place prend le social dans l'économique?
Passé dans le système libéral, l'économie devrait être au service du social, c'est-à-dire au service de l'humain, de la société.
Ce qui devient de plus en plus fondamental.
L'économie est un grand mouvement social.
L'avenir de la planète nous impose un changement. En quoi est-ce une chance?
Ce serait une chance s'il y avait une prise de conscience à la fois économique, écologique et sociale. Ce serait vraiment beaucoup de choses qui marchent ensemble, obligatoirement.
Ce serait une chance si on prend les décisions qui font qu'on arrête de continuer comme on le fait d'aller dans le mur.
C'est une chance dans la mesure où on est amené, pour préserver le biotope et la planète, à être de mieux en mieux informé et d'avoir une part de responsabilité individuelle dans la préservation précisément de notre environnement.
C'est une chance parce qu'on est acculé au fait de réfléchir.
On a l'intelligence pour le faire et il nous reste encore quelques temps et on a les compétences.
Quel est l'avenir de l'homo consumerus?
Et peut-être qu'un jour, il y aura un homme s'ajuste ou un homme...
Plus éclairé, qui commence à regarder un peu plus les produits qu'il achète, qu'il les choisit en fonction des conditions de sa production.
Il n'y a pas d'avenir puisque les ressources étant limitées, on ne peut que voir une économie allant vers une moins grande consommation et une plus juste consommation.
Faut-il créer de nouvelles solidarités pour s'en sortir ?
Bien sûr, les solidarités notamment entre le Nord et le Sud, mais aussi à l'intérieur des pays, à l'intérieur des communautés. Toute solidarité étant fondatrice de liens sociaux et donc d'une économie saine.
Moi, je dirais qu'il faut réinventer la solidarité parce que l'individualisme, au contraire, nous a éloignés de tout ce qui peut faire la solidarité, la vie en société.
Les petits changements individuels sont-ils la vraie révolution ?
Oh, je ne pense pas que des petits changements individuels puissent faire la révolution. Il faut vraiment que ce soit des mouvements, je dirais entre guillemets, de masse.
Si l'évolution ne commence pas par soi-même, comment veut-on que la société impose aux gens des choix qu'ils ne veulent pas.
Les petits changements individuels, ça peut être une solution si tout le monde s'y met.
Ah, ça, c'est pour vous, Cyril Dion.
Ouais, j'ai compris.
C'est, c'est pour vous. Directeur de Colibri, directeur de la rédaction d'un magazine qui paraît depuis mars 2012 et qui s'appelle, je ne sais pas si je prononce bien, c'est du japonais, Kaizen.
Kaizen, exactement.
C'est quoi, ouais. C'est changement positif, au fond.
Kaizen, ça veut dire changement bon. Kai, ça veut dire changement, et Zen, ça veut dire bon. Et la traduction littérale, c'est amélioration continue. Mmh. C'est la méthode du changement par les petits pas. Ce qui considère que si on propose à quelqu'un de changer du tout au tout, en lui disant c'est catastrophique, il faut tout changer dans votre vie, les gens n'y arrivent pas parce que toutes les peurs se réveillent. Et donc, au lieu de changer, on met tout de côté. C'est ce qu'on a vu, par exemple, en psychologie. Il y a un type qui a écrit un bouquin qui s'appelle La voix du Kaizen, qui voyait des gens arriver obèses dans les hôpitaux. Et le médecin leur disait, alors, il faut changer toute votre alimentation et faire une heure de sport par jour à des gens qui mangeaient que du fast-food et qui passaient leur journée devant la télé. Et ouais. Il voyait qu'il revenait la fois d'après et qu'évidemment, non seulement il ne l'avait pas fait, mais en plus, il se sentait hyper coupable de ne l'avoir pas fait. Alors qu'il se disait, si je leur propose de faire une minute de sport devant la télé, ça, ils vont y arriver. Alors les gens disent, ah oh oui, une minute de sport, ça, je peux y arriver. Et il se dit, bah, une minute, c'est quand même court, je vais peut-être faire 2 minutes ou 5 minutes. Et donc, tout le bénéfice que les gens ont trouvé à le faire et toute la confiance en eux d'avoir réussi ce premier petit pas les a amenés à en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et c'est notamment la technique qu'ont utilisé les Américains pour rentrer en guerre en 41. Ils n'avaient pas le temps de complètement réorienter leur économie. Donc, ils ont demandé à chacun de faire le maximum qu'il pouvait là où il était. Et ça les a amenés à des changements tellement incroyables qu'ensuite, ils ont proposé ça aux Japonais quand ils les ont aidés à reconstruire, qu'ils l'ont théorisé en une méthode qu'ils ont appelée Kaizen et qui est maintenant utilisée notamment en entreprise et en psychologie.
Mais d'une certaine façon, vous êtes en train de nous raconter la légende de Colibri, là.
Ben oui, parce qu'en fait, c'est un magazine qu'on a créé avec Colibri et on a cherché une correspondance avec...
Alors Colibri, elle est belle, en deux mots, l'histoire de Colibri.
C'est une légende amérindienne qui raconte qu'un jour, les animaux de la forêt se retrouvent dans une clairière au milieu de la forêt qui est en train de brûler. Et évidemment, aucun d'entre eux ne sait comment éteindre le feu, donc ils ont peur et ils se regroupent à côté d'une rivière et ils sont complètement paralysés. Tous sauf le petit colibri, donc qui est un oiseau-mouche, donc qui est vraiment minuscule, qui va chercher une petite goutte d'eau, qui va la mettre sur le feu, qui va chercher une goutte d'eau, qui va la mettre sur le feu. Et au bout d'un moment, les autres animaux le regardent, l'air un peu à la fois atterré, dépité et interrogatif, en lui disant « Colibri, tu t'es regardé, t'es minuscule, t'es comme une mouche. Ta goutte, elle est encore plus minuscule, t'as quand même conscience que c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. » Et les colibris les regardent droit dans les yeux et leur disent « Oui, je sais, mais je fais ma part. »
Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est ça, c'est à quoi il faut aboutir. C'est le projet, au fond. Hein.
Le projet, c'est ça. C'est un peu ce que disaient les gens dans le reportage. C'est-à-dire que, d'une part, notre société, elle est faite de tous les petits gestes qu'on fait chaque jour. C'est-à-dire que tous les actes d'achat qu'on fait, toute la façon dont on se comporte avec les autres, la façon dont on éduque nos enfants, la façon dont on se chauffe, la façon dont on se déplace, tout ça, mis bout à bout, construit la société dans laquelle on est. Donc, ça veut dire que, bout à bout, tous nos gestes et toutes nos attitudes qui pourraient changer construiraient une autre société. Et puis, ce que je trouve très beau dans la légende du colibri, c'est que l'idée n'est pas de se préoccuper du résultat. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait qu'on va éteindre le feu qu'on va mettre une goutte. On le fait parce que profondément, c'est ça qui nous paraît le plus juste et le plus cohérent à faire.
C'est la question du sens à nouveau qui revient là.
Exactement, oui.
Alors prenons des exemples, parce que vous travaillez, on n'est pas simplement dans une belle posture intellectuelle et philosophique. Vous travaillez sur des scénarios très concrets.
Oui.
Tout le monde évoque aujourd'hui la délocalisation de l'économie. Mmh. Vous vous dites non, c'est pas délocalisation, c'est localisation de l'économie.
Exactement. Là, on a organisé d'ailleurs hier un grand événement dans 25 villes en France, qu'on avait appelé la rando des acteurs locaux, pour que les gens partent à la rencontre des commerces, des entreprises qui participent à une économie locale vivante. Parce qu'on s'est rendu compte que, et ça c'est notamment des études qui ont été faites aux États-Unis par un mouvement qui s'appelle BAL, Business Alliance for Local Living Economies, sont des entrepreneurs qui pensaient que l'économie allait se transformer par les grands groupes. C'était l'époque de Body Shop et de tous les héros de l'économie. Et au bout d'un moment, ils se sont rendu compte que ça se produisait pas. Body Shop a été racheté par L'Oréal, Ben & Jerry a été racheté par Unilever, et que finalement le modèle digérait ça. Et que l'économie devait être quelque chose qui se réenchassait sur les territoires. Et qui était, l'économie, ça concerne des populations, des communautés. Et donc, c'est d'abord ces communautés qui doivent se saisir de cette économie. Et ils ont fait des études, notamment avec Harvard, qui ont montré que acheter local, donc, par exemple, ça peut être quelque chose qui est produit localement, mais ça peut être aussi tout simplement dans un commerce indépendant de son territoire, ça produisait 3 fois plus de richesses, ça créait 3 fois plus d'emplois, ça permettait aux collectivités locales de collecter 3 fois plus de taxes et aux organismes de bienfaisance ou aux associations d'avoir 3 fois plus de dons. Donc là, concrètement, alors qu'on se demande comment on va créer des emplois, comment on va faire pour que cette économie hors sol arrête de se délocaliser et que les entreprises partent au bout du monde, on a une solution extrêmement simple qui est, quand on est citoyen, de commencer par aller acheter chez des commerces locaux indépendants. Quand on est entrepreneur, de regarder quelles sont les activités qui manquent sur notre territoire et de les proposer, donc de répondre à une offre. Quand on est une collectivité, de pouvoir s'approvisionner, ça c'est aussi quelque chose qui a été très très fort aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec ils ont des calculateurs. Et donc quand ils vont voir une collectivité, ils y vont avec le calculateur, ils disent « alors on va faire un petit calcul et puis on va regarder si vous vous approvisionnez auprès de telle entreprise du territoire ou si vous vous approvisionnez auprès de telle multinationale qui vous propose des prix formidables ». Ils font un petit calcul. Oh, vous avez créé 3 fois plus d'emplois en vous approvisionnant sur l'entreprise de votre territoire. Intéressant, non? Ah oui, intéressant. Vous avez fait circuler 3 fois plus de richesses. Vous allez collecter 3 fois plus de taxes. Et donc là, il y a des collectivités qui se sont dit, mais c'est pas possible. Là, il faut qu'on change. Et donc c'est là où c'est très intéressant. C'est qu'on sort d'une posture qui est simplement idéologique pour rentrer dans une posture qui est aussi tout à fait pragmatique de regarder par le calcul ce que ça a comme impact. Et ça, c'est ce qu'on fait pour l'agriculture, pour l'énergie, pour l'éducation. Et par exemple, pour l'énergie, c'est exceptionnel. Enfin, on travaille avec une association qui s'appelle Negawatt, qui depuis 8 ans construit un scénario de transition énergétique pour la France, qui depuis 8 ans dit on serait tout à fait capable de sortir des énergies fossiles aux alentours de 2050 et de sortir du nucléaire entre 2030 et 2035. Ils ne le disent pas parce que c'est une posture idéologique, ils le disent parce qu'ils ont regardé quels étaient les bénéfices ou les dégâts que telle ou telle technologie pouvait créer. Et que, bon, bah, le nucléaire, c'est de l'uranium, les stocks vont s'épuiser, le fossile aussi, il y a le dérèglement climatique, il y a les dangers du nucléaire. Et c'est des ingénieurs. Donc, un ingénieur, il voit un problème, il a envie de le résoudre. Ils ont commencé à faire un tableur Excel en regardant toutes les données, à la fois les données de transport, d'alimentation, de chauffage, etc. 1 million de cellules Excel fusionnées pour arriver à ce qui est aujourd'hui le scénario de transition énergétique le plus abouti en France. Thierry Salomon, qui est le président de cette association, participe au débat sur la transition énergétique. Il coordonne même un groupe. Quand il regarde les modèles qui sont utilisés par Bercy pour prendre les décisions sur la transition énergétique, il est absolument effaré. C'est-à-dire qu'il voit que les citoyens, et là en l'occurrence des ingénieurs, ont été capables de mettre en place des modèles qui sont, allez, 20 ou 100 fois plus élaborés, 100 fois plus précis. Pour proposer des solutions.
Ça renvoie à la question que je posais en commençant tout à l'heure. Comment se fait-il que la sphère politique ne soit pas plus à l'écoute de ces idées qui sont proposées? Une question vraiment importante, Cyril Dion, qui relève du déni collectif. A été publiée il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité. Mmh. Ça fait quoi, 4 lignes, là aussi dans la presse?
Alors, ou... c'est une étude qui est parue à l'été 2012, qui s'appelle Approaching a State Shift in Earth's Biosphere. Donc, c'est 22 scientifiques du monde entier, pas mal d'Américains, qui ont commencé à regarder comment la dégradation des écosystèmes allait évoluer dans les années qui viennent. Ils n'avaient pas d'idée préconçue, même s'ils se disaient qu'effectivement la situation avait l'air d'être grave, puisqu'on parle déjà de 6e extinction de masse des espèces, donc des espèces qui disparaissent à une vitesse extrêmement grave. Mais eux-mêmes ont été terrifiés par les résultats de leur étude. Et en gros, ils expliquent que si on continue comme ça, presque la moitié des climats que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre pourraient bientôt avoir disparu et seraient remplacés entre 12% et 39% de la surface du globe par des conditions qui n'ont jamais été connues par les organismes vivants. Et ce changement s'effectuerait de manière brutale, empêchant les espèces et écosystèmes de s'y adapter. En gros, ils pensent qu'entre 2040 et 2100, il y a une forte probabilité que l'humanité se retrouve dans des situations tellement extrêmes qu'elle puisse ne pas s'en relever, ou en tout cas qu'une grande partie de l'humanité puisse disparaître. Ça a fait la une de Libération parce qu'une journaliste qui s'appelle Laure Noala, qui est très engagée sur ces questions-là, a réussi à le faire passer parce que c'est l'été, il n'y avait pas beaucoup de sujets et qu'en gros elle s'est roulée par terre devant son rédacteur en chef. Ça a fait, en gros, un blog sur lemonde.fr. C'est-à-dire que moi, j'ai vu l'information avant Libé parce que c'était remonté dans les articles les plus likés, mais sinon, c'était même pas dans les articles de la rédaction proprement dite. Donc là, on est dans une espèce de délire.
Dans la hiérarchie des importances, ça devrait faire la une de toutes les radios, de tous les quotidiens, de toutes les télévisions, tous les jours.
Exactement.
C'est ça, en principe, qui devrait être normal.
Là, vous avez entendu le journal tout à l'heure. On a parlé de faits divers qui sont certes tragiques, mais qui sont des faits divers qu'on met en regard, là, d'une disparition possible de l'humanité. On va aller parler dans tous les médias de Nabila qui a dit « Allô, t'as pas de shampoing » ou de trucs qui n'ont strictement aucune importance.
C'est la peur, au fond, ce déni, c'est de la peur, c'est notre peur collective. Et est-ce que vous avez les moyens, les uns et les autres, par cette force de proposition de ces forums que vous organisez ou de ces groupes de réflexion que vous pilotez, de nous faire prendre conscience que débarrassons-nous de la peur pour regarder ce qui est notre vérité absolue à tous. Il faut qu'on change.
Une proposition.
Et puis après, je te. je pense que c'est la peur dans le sens où, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la loi du Kaizen, quand il y a quelque chose d'aussi énorme et d'aussi écrasant et qu'en face, on n'est pas capable de faire des propositions, c'est impossible à gérer. C'est-à-dire que c'est une information qui est impossible à gérer. Si je vous dis demain. Vous avez, j'en sais rien moi, une maladie grave et vous allez mourir dans les 48 heures, il n'y a absolument rien à faire, vous allez être dans une situation qui est extrêmement dramatique. Si je vous dis, vous avez une maladie, mais vous pouvez faire ça, et vous pouvez totalement changer votre mode de vie, et tout ça peut participer à ce que vous guérissiez, là vous êtes dans une autre posture. Donc une grande partie de notre travail est justement d'essayer d'arrêter d'être dans ce système très catastrophiste où on voit le monde s'effondrer et où on ne sait pas quoi faire, et plutôt de proposer un nouvel imaginaire. Et ce qu'on fait là, puisqu'on a créé une collection de livres chez Actes Sud qui s'appelle Domaine du Possible, on a fait ce magazine.
Et c'est très bien fait d'ailleurs, hein. C'était une collection que vous dirigez maintenant, en effet, à Actes Sud, c'est Domaine du Possible, avec notamment un opus là qui a pour titre Évolution, avec le R devant entre parenthèses qui fait révolution, avec un
voilà.
S à révolution.
Où on a essayé justement dans ce livre de proposer une vision de la société assez globale, parce qu'on voit un peu des solutions de façon parcellaire comme ça, mais on a du mal à avoir une vision d'ensemble de ce à quoi la société pourrait ressembler demain. Or, je pense que c'est ça qu'on doit projeter comme imaginaire pour se dire, mais oui, c'est dans ce monde-là que j'ai envie d'habiter.
Alors, on est à la veille de Pâques. Je vais vous dire, c'est une très bonne nouvelle. On va tout changer. Mais comment on fait, Alexandre Jost?
En fait, il y a effectivement une question importante. C'est celle, est-ce que la peur est le bon moyen? Et on s'aperçoit, il y a des études de casseurs qui sont intéressantes et qui montrent que la peur déclenche plutôt des comportements matérialistes. Si vous écoutez un morceau de musique un peu affolant, alors vous êtes dans une optique qui est beaucoup plus matérialiste, sachant que le matérialisme, mais par ailleurs, d'après les études suisses, plutôt générateur de mal-être. Donc, une solution, comme vous le disiez, on participe à cette commission sur l'économie positive, mandatée par François Hollande. C'est un modèle d'économie qui s'appuie sur l'altruisme rationnel, c'est-à-dire un altruisme dont je bénéficie également en tant qu'organisation, en tant qu'individu. C'est-à-dire une manière de refonder les rapports entre les individus, les rapports entre les entreprises individus, les pouvoirs publics et les entreprises, avec derrière un alignement des différents enjeux sociaux, économiques, politiques, etc. Et je pense qu'il y a une idée derrière ça, parce que c'est une vision qui est positive, plutôt qu'une vision punitive, curative, défensive.
Allez, soyons tous des petits colibris, parce qu'il est quand même sympa celui-là. Hein. Merci à vous. Dans un instant, le journal de 13h, et tout va bien, hein, tout va bien.
Le journal de Stéphane Paoli.
Bonjour Benoît Colomba.
Bonjour.
C'est un nom, vous qui nous écoutez, vous qui êtes en studio ici, qui doit vous être familier, parce que Benoît nourrit de très nombreuses enquêtes à la rédaction de France Inter, et il a publié déjà plusieurs essais, plusieurs livres d'enquête, dont un dont on avait d'ailleurs beaucoup parlé dans 3D aussi, Un homme à abattre, contre-enquête sur la mort de Robert Boulin, qui était paru aux éditions.